Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. La Pâque est la toute première fête divine de l'année, et sans doute, je crois que nous le reconnaissons tous, la plus solennelle de toutes les fêtes de Dieu. Aujourd'hui, et au moment où nous sommes encore en pleine préparation physique et spirituelle de la fête de Pâques, j'aimerais nous rappeler trois leçons essentielles qu'il nous faut garder bien présentes à l'esprit. Bien sûr, ce ne sont pas les seules leçons que nous pouvons retirer de la Pâque, mais je crois sincèrement que ces trois leçons figurent parmi les plus importantes de la fête de Pâques. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul écrit ces mots qui résonnent comme un réveil et comme un appel à l'action et à la réflexion. Il dit ceci aux Corinthiens dans 1 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 7. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Christ, notre Pâque, a été immolé. Eh bien, en effet, souvent, la première chose à laquelle nous pensons, des semaines à l'avance, avant la fête de Pâques, avant la célébration de la Pâque, c'est tout d'abord, bien sûr, notre organisation domestique en vue de l'enlèvement du levain. Mais ce n'est pas sur cette priorité physique que je voudrais aujourd'hui mettre l'accent. Notez qu'à la fin du verset, il a prononcé ou il a écrit ces mots, il donne la raison première de la saison pascale. Il dit et il écrit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Christ est notre Pâque, il est l'agneau de Dieu, l'agneau pascal. Il symbolise parfaitement les exigences et le rôle de l'agneau de Dieu. En effet, il fallait que l'agneau soit sans défaut, soit sans tache pour le sacrifice. Remarquons aussi que, malgré toutes les blessures qu'il a reçues, aucun de ses os n'a été brisé. Comme il nous est dit dans Jean, chapitre 19, verset 36. Jean 19, 36. Enfin, Christ a donné sa vie, qui a été sacrifié, et il l'a fait après avoir mené cette vie sans péché. Nous le lisons dans Hébreux, chapitre 4, verset 15. La raison de son sacrifice apparaît en pleine lumière. Le sang précieux de Christ a été versé, et il a été versé jusqu'à ce qu'il perde la vie, comme un agneau sacrifié le subirait. Mais dans le cas de Christ, le Fils de Dieu, le Messie, celui qui a été oint par Dieu, loin du Seigneur, son sacrifice a rendu possible le pardon de nos péchés. Par sa mort, nous sommes en effet réconciliés avec Dieu, que nous avons gravement offensé par nos péchés. Mais à travers sa résurrection, eh bien, sa vie aussi revenue en lui, eh bien, grâce au Père, qu'il a ressuscité, nous avons accès au salut de l'humanité, toute l'humanité. C'est une délivrance unique qui nous est rappelée dans une vision que Jean a eue dans le livre de l'Apocalypse et dans laquelle de puissants anges ont chanté à la louange de l'agneau de Dieu qui avait été immolé. Et Jean écrit ceci, et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux ». Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et là on voit l'entièreté du sacrifice de Jésus qui va couvrir tous les péchés de toute l'humanité. Jésus-Christ a consenti à payer notre rançon. Et ce consentement, il l'avait fait dès la fondation du monde. Il a accepté de subir cette peine à notre place, la peine de la mort éternelle. Il était décidé à le faire, et Dieu a donné son accord pour qu'il puisse le faire. En effet, notre destin, auparavant, eh bien, c'était de passer par la mort éternelle, par cette peine, sans espoir de résurrection. Par le sacrifice suprême de Christ, qui a payé le salaire extrêmement élevé de tous les péchés de toute l'humanité, et par sa résurrection, nous avons tous accès à la vie éternelle. Quel amour incroyable, mais aussi quelle injustice quand nous y pensons. celui qui n'a jamais péché s'est soumis à la peine que nous devions subir, que nous avions méritée. Jésus-Christ a accepté d'être battu, de souffrir une mort atroce pour nous, alors même que nous étions encore des pécheurs. Tout commence, en fait, dans le plan de Dieu à la Pâque. C'est le commencement de tout, et pour chacun d'entre nous, car en effet, nous comprenons l'amour que Dieu a déployé, quand nous comprenons le but du sacrifice de Christ. Eh bien, tout cela, qu'est-ce que cela produit déjà? Cela nous motive pour changer, pour ne pas rester là à ne rien faire, pour adopter maintenant une vie que nous nettoyons de tout péché, avec, bien sûr, nos faibles moyens humains. Nous faisons de notre mieux pour ne pas pécher. Maintenant, pour sortir du cycle du péché, nous changeons nos vies. Ce cycle du péché qui nous emprisonne si facilement, il y a des péchés qui reviennent. Nous sommes comme pris parfois dans des filets, mais nous voulons changer, et nous réussissons à changer. Comment cela est-il possible? Bien sûr, nous persévérons dans ce nettoyage de nos vies, mais ce qui est possible, ce qui est rendu possible, c'est que Dieu nous aide, il ne nous laisse pas seuls, il ne nous laisse pas sans sa puissance, agissant en nous, par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, nous parvenons à des résultats, année après année, Pâque après Pâque. Nous voyons le bilan de ce que nous avons fait par rapport à l'année dernière, si nous gardons le récit de notre examen personnel. Nous voyons des batailles remportées. Nous voyons, bien sûr, aussi, ça et là, quelques échecs, qui peuvent aussi, au cours de l'année, ressurgir. Cela peut arriver, mais, dans l'ensemble, nous persévérons dans la bonne direction. Et c'est cela ce que Dieu nous demande. Quelques semaines seulement après la mort de Jésus et sa mise au tombeau, sa résurrection, une foule s'est rassemblée, rappelez-vous, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, et en entendant le sermon de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes au chapitre 2, il nous est dit que dans la foule, une multitude, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Au point qu'ils ne savaient que faire. Ils se demandaient ce qu'il fallait faire ensuite. Ils se doutaient bien qu'ils ne pouvaient pas rester là, les bras croisés, ou regarder et attendre la vie éternelle comme un simple dû qui maintenant leur était donné. Il y avait quelque chose à faire. Ils étaient confrontés à cette vérité, ils avaient compris que tout cela était arrivé à cause de chacun d'entre eux. Ils sentaient cette responsabilité personnelle dans la mort du Sauveur de l'humanité. Alors, confrontés à cette vérité, eh bien, ils comprenaient qu'ils portaient la responsabilité de la mort du Fils de Dieu. Tout comme nous-mêmes, nous la portons, nous aussi. Tout comme nous comprenons nous-mêmes que tout cela est arrivé à cause de chacun d'entre nous aussi. Mais alors, que pouvait-il faire maintenant? Et que pouvons-nous faire maintenant? Alors, ils posent la question. Ils disent, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » au verset 37, dans Actes chapitre 2. « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Ils sont bouleversés. Et l'apôtre Pierre leur répond ceci. « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, la puissance de Dieu. Verset 38. Autrement dit, vous recevrez la force, vous recevrez la puissance pour le changement, pour faire ces choses. Il y a disparition de toutes ces addictions. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain, bien sûr, mais il y a tout un processus de combat. Dieu nous donne cette puissance surnaturelle, auquel le commun des mortels n'a pas accès. Il faut bien le reconnaître. C'est ça la différence. Donc Dieu nous donne cette force de caractère, que nous développons, bien sûr. Il nous donne cette motivation, ce désir de changer et de conquérir jour après jour le terrain perdu, de conquérir ce terrain spirituel, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc voilà, une première leçon qui nous enseigne, et elle est très importante, que nous pouvons retenir, une leçon de la Pâque, c'est qu'il nous faut comprendre, il nous faut reconnaître notre culpabilité. C'est capital, notre responsabilité individuelle dans la mort du Sauveur de l'humanité, qui lui n'a pas péché. Nous ne pouvons pas nous cacher en quelque sorte derrière la foule. Non, nous sommes là en pleine lumière. Et tout comme des centaines de personnes, là à Jérusalem, ce jour-là, le jour de la Pentecôte de l'an 31 de notre ère, ces personnes qui, pour la plupart, étaient non-juives, ils venaient de toutes sortes de nations, ils étaient parthes, ils étaient grecs, ils étaient venus encore d'Égypte peut-être, nous réalisons que Jésus nous regarde aujourd'hui et il nous regarde personnellement. Il nous aime et il désire que nous changions, mais il ne nous laisse pas dans le remords. Et nous avons effectivement cette puissance maintenant, par le baptême, par l'imposition des mains, par la réception du Saint-Esprit en nous. Nous avons les instructions de Pierre qui nous sont données, qui résument ces trois points, pour changer nos vies, ensuite, avec patience, avec persévérance, avec zèle, avec détermination, nous continuons dans ces choses. Voilà, la Pâque, c'est le commencement de tout, c'est le commencement de ce processus merveilleux de changement qui s'appelle le repentir. Le repentir. Tout redevient possible. La vie reprend son cours, en quelque sorte. Et c'est une vie spirituelle. Elle prend un nouveau sens. Elle prend une nouvelle orientation dans un combat spirituel jusqu'à la victoire finale. Ensuite, une autre leçon très importante, elle aussi, que nous devrions retenir en vue de la célébration de la Pâque et après avoir vécu ces moments lors de la célébration de la Pâque, c'est que cette leçon, et elle va contribuer d'ailleurs à notre paix d'esprit, c'est notre réconciliation avec Dieu. Notre réconciliation avec Dieu. Et en particulier avec notre Père céleste. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Vous savez, dans mon enfance, je me souviens des classes d'éducation religieuse. Nous avions des classes encore au lycée. Je ne pense pas que nous en ayons de nos jours, en tout cas dans les lycées d'éducation publique. Nous avions ces classes. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de diapositives. Il s'agissait d'un appareil de projection, il s'agissait d'un film qui se déroulait. Et il y avait comme un bouton, et image après image, nous voyons donc l'histoire de la Bible. Nous voyons Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Israël dans le désert. Toutes ces choses ont résonné dans mon esprit. Nous voyions toute l'histoire du peuple de Dieu. Et ce qui m'avait frappé dans ces classes, je m'en rappelle encore, je devais avoir une dizaine d'années, c'était cette merveilleuse histoire. L'ensemble de cette histoire qui, finalement, ce que je retenais, c'est la patience de Dieu, symbolisée aussi par la patience de Moïse, qui parfois on en a manqué, mais la patience et l'amour de Dieu pour son peuple. Comment était-il motivé pour continuer inlassablement à sauver son peuple? À revenir, à l'encourager à revenir avec lui, à le corriger aussi, parfois durement, mais il fallait qu'il se rappelle, il fallait qu'il se souvienne de ces choses. Et à chaque étape, Dieu a cherché, qu'est-ce qu'il a cherché? Il a cherché la réconciliation avec son peuple, à travers des instructions simples, des commandements simples, des promesses de bénédiction et des promesses aussi de malédiction. Donc toutes ces choses que nous lisons dans l'Ancien Testament n'étaient pas compliquées. L'apôtre Paul explique que le fondement du message chrétien aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, c'est un message, lui aussi, un message de réconciliation. Et il l'explique dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, et allons au verset 18, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, où il écrit « Et tout cela vient de Dieu ». Il parle de la nouvelle création qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc on voit là, c'est toute une entreprise. Dieu, continue-t-il, verset 19, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Donc il y a une sorte de délivrance, une véritable délivrance. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Cette réconciliation, eh bien, c'est Dieu qui l'a rendue possible. Nous le lisons. Et c'est son initiative, ce n'est pas la nôtre. C'est son plan également. Et quant à nous, il nous aurait été bien entendu impossible de chercher de par nous-mêmes la réconciliation avec Dieu si Dieu n'avait pas conçu ce plan de réconciliation et de salut pour l'humanité au moyen du sacrifice de son Fils. Désormais, comme je le disais, tout est possible. Tout est possible uniquement parce que Dieu l'a rendu possible. Comprenons-le bien. Autrement dit, nous devons tout à Dieu, tout, y compris même notre désir de réconciliation avec lui, quand on y pense, avec lui et avec son Fils. Je ne crois pas qu'il soit possible de trouver une autre méthode pour le salut de l'humanité en dehors de celle que, précisément, Dieu a choisie pour nous, pour pardonner nos péchés, pour nous réconcilier avec lui, avec son Fils, et pour ensuite pouvoir être sauvés et pouvoir hériter de la vie éternelle. Et cette méthode, parfaite, parce que c'est la méthode de Dieu, c'est la méthode qu'il a choisie, exigeait qu'un membre de la famille divine, la parole, appelée aussi le Verbe, représenté par Jésus-Christ dans Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14, que la parole, Jésus-Christ, puisse descendre sur terre après sa naissance en tant qu'homme, après sa croissance en tant qu'homme, devenir un homme, Jésus-Christ, pour ensuite mourir pour nos péchés. Quel plan extraordinaire, incroyable, magnifique. Paul décrit cet acte incroyable de miséricorde dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Philippiens 2, 5, et nous lirons les versets 5 à 8. Il écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix, une mort terrible. » Et comment cela a-t-il été possible? Et pourquoi était-il nécessaire que Jésus meure d'une mort aussi horrible? N'y avait-il pas une autre solution? Et Jésus n'a-t-il pas précisément, à la perspective de ces terribles souffrances, n'a-t-il pas lui-même demandé si cette coupe, si cet acte pouvait être éloigné de lui, tellement l'anxiété était en lui? Pour comprendre cela, nous devons d'abord, réaliser que Dieu nous demande une obéissance totale à sa loi. Une obéissance totale à sa loi. Et cela, c'est d'une importance capitale. Sa loi, en somme, je le disais, elle n'est pas, quand nous y pensons, elle n'est pas difficile à observer. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, honorer Dieu et honorer nos parents, ne pas mentir, dire la vérité, ne pas convoiter ce qui appartient aux autres, ça c'est ma vie, les autres ils font ce qu'ils veulent. Tout cela s'apprend quand? Dès l'enfance. Cela s'apprend dès l'adolescence. Et puis après le baptême et la réception du Saint-Esprit, nous recevrons, je le disais, en nous la puissance de Dieu, la puissance d'obéir à Dieu. Comment? Eh bien parfaitement, c'est-à-dire en vérité et en esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous pouvons avoir cette compréhension supérieure. Cela ne demande pas des diplômes, cela demande notre lien avec Dieu et la force que Dieu met en nous. Donc nous pouvons aller à ce niveau supérieur de l'obéissance en vérité et en esprit afin de plaire à Dieu. Et tous ceux qui sont appelés à ce changement aujourd'hui reçoivent cette capacité d'obéissance à Dieu en esprit et en vérité. Si Dieu avait pardonné à l'humanité sans passer par le sacrifice de l'agneau de Dieu, le sacrifice de la Pâque, tout le monde finalement aurait compris que obéir ou désobéir n'aurait que très peu d'importance et que désormais chacun peut faire ce qui lui semble bon. C'est exactement ce que Satan a fait, rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, en convainquant Ève, puis Adam, de croire son mensonge et de décider de faire ce qu'il voulait faire. Il fallait donc que le pardon de Dieu, il fallait que la miséricorde de Dieu, finalement la réconciliation et le salut de l'humanité pour tous, il fallait que cela ait la plus grande valeur possible aux yeux de tout le monde, aux yeux de tous les hommes. Il fallait que toute l'humanité comprenne que c'est d'une grande valeur, la valeur de la vie de Jésus, la valeur inestimable de la vie même de Dieu, avec ce prix totalement inatteignable, incommensurable. Nous savons tous désormais que sans l'obéissance à Dieu, il nous est impossible d'accéder à la vie éternelle. C'est le prix à payer. Le péché ne peut pas être traité à la légère. Il est horrible et parce qu'il détruit tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu construit patiemment, y compris la vie même qu'il nous donne. Dieu est juste, Dieu est amour. Il nous aime, il aime sa création. Et sa création, il l'a faite très bonne. Il l'a faite même pour nous, l'humanité. C'est dire le niveau de reconnaissance que nous devrions exprimer, le niveau de reconnaissance éternelle que nous devons à Dieu. Et comme il nous est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, peut-être le verset le plus célèbre dans les évangiles, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et puis dans sa première lettre, au chapitre 4 et au verset 9, Jean a également écrit ceci, 1 Jean chapitre 4, verset 9, 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. » Nous, donc c'est lui qui est l'initiateur, en ce qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus-Christ tenait absolument à faire ce sacrifice. Il désirait prouver ainsi son amour envers nous. Comme il l'a fait le soir de sa dernière Pâque avec les disciples, rappelez-vous, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Dans Jean chapitre 15, verset 13. Parallèlement, il savait aussi que les souffrances impliquées seraient terribles. Et son anxiété atteignait un tel niveau que des gouttes de sang perlaient de son front, alors qu'il priait pour être délivré de la perspective de cette épreuve. Le témoignage nous est donné par Luc, qui était médecin, et il s'agit d'ailleurs d'un phénomène similaire à ce qu'on a à un certain symptôme médical qu'on appelle l'hématidrose ou encore les sueurs de sang. C'est une sécrétion de sang par les glandes sudoripares. Et ce phénomène est favorisé par l'anxiété, il est favorisé par l'angoisse. Donc la science médicale connaît ce phénomène et Luc, qui était médecin, en prend note dans sa version de l'Évangile. Nous savons que le péché lui-même entraîne de véritables catastrophes. Cela ne fait aucun doute. Quand nous voyons par exemple la vie du roi David, c'en est un exemple. Il y a une succession de drames familiaux particulièrement pénibles. Nous pouvons le voir aussi dans l'histoire du monde. Je ne prendrai pas d'exemple, mais c'est la raison pour laquelle le martyre de Christ nous rappelle les terribles souffrances engendrées par le péché. Donc Dieu, notre Dieu d'amour, ne minimise pas l'horreur que représente le péché. Nous comprenons cette chose. Le péché est une chose terrible. Il veut que nous comprenions à quel point sa finalité, la finalité du péché, c'est la destruction de tout ce qui nous est cher. Tout ce qui nous est cher. Je le disais, le spectacle du monde en déclin, et d'ailleurs en voie d'autodestruction, est une illustration tout à fait évidente du résultat du péché. C'est Dieu qui a déclaré que le salaire du péché, c'est la mort, dans Romains chapitre 6, verset 23. Les choses sont ainsi. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une loi. C'est une loi spirituelle et une loi universelle aussi ferme et aussi certaine que la loi de la gravitation universelle. Pourtant, notre nature humaine, notre nature égoïste, charnelle, pourrait nous inciter à croire que c'est peut-être une loi injuste. Serions-nous tentés de croire cela? Mais il se trouve que les pensées de Dieu sont bien supérieures aux nôtres. Il nous est dit qu'elles sont aussi élevées que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Et qui pourrait prétendre le contraire? Que sommes-nous par rapport à Dieu? C'est la raison pour laquelle Dieu est justice. Dieu est juste, et dans son épître aux Romains, Paul met l'accent sur la justice divine. Si, par exemple, Dieu devait pardonner à certaines personnes et non pas à d'autres, il ferait ce qu'on appelle acception de personnes. Simplement, s'il faisait cela simplement par préférence personnelle, il ne serait pas juste. C'est l'évidence même. Or, si Dieu était ainsi, nous ne pourrions pas lui faire confiance. Pourquoi ? Parce que nous ne saurions jamais quand il exigerait la justice et quand il se contenterait d'ignorer l'injustice. Vous voyez ? Par conséquent, de ne pas condamner le criminel dans le cas de l'acception de l'injustice. Donc, notre foi s'appuie sur le caractère parfait de Dieu, sur le caractère infaillible de Dieu. Nous avons confiance en lui. Nous établissons notre confiance en lui. Nous pouvons donc nous réjouir de ce que le caractère de Dieu soit juste. Il est juste et il est motivé par la bienveillance et par l'amour. Encore une fois, la loi divine dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Et c'est une loi qui est juste. Il y a donc une loi de conduite acceptable et cette loi, ce sont les 10 commandements. Quiconque les observe tous reçoit des bénédictions, quiconque en enfreint un seul et les transgresse tous de fait et de surcroît reçoit des malédictions. Plus une malédiction finale, une malédiction ultime à la clé qui est la mort éternelle. Donc c'est l'amende, c'est cela, c'est cette amende qui au final doit être payée par quelqu'un. Quiconque paye cette amende à la place du criminel permet la libération de ce criminel. Or, la loi dit ceci, vie pour vie. Le prix d'une vie, eh bien, c'est une autre vie. Une vie qui a été prise doit être payée. Elle est en quelque sorte la priorité, la propriété de Dieu, qui lui seul est l'auteur de la vie. Donc, c'est lui qui détient cette vie. Cette vie, c'est lui qui l'a créée, en quelque sorte. Elle lui appartient. Un homme, s'il le décidait, pourrait donc mourir à la place d'un autre homme, qui se serait rendu coupable de la peine de mort. Mais qui pourrait payer, en fait, quel homme pourrait payer, en fait, pour des milliards et des milliards d'êtres humains, qui ont vécu, qui se sont rendus coupables de péché, qui ont reçu en eux le salaire du péché, c'est-à-dire la mort. Personne ne peut le faire, sauf l'auteur de la vie. Dieu lui-même. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, l'apôtre Paul nous rappelle que néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc voilà en quelque sorte l'explication de la possibilité du sacrifice suprême de Jésus, selon le plan de Dieu. Nous existons pour la gloire de Dieu le Père, d'où viennent toutes choses, tout ce qui existe, et nous existons par la puissance de Jésus-Christ qui a créé toutes choses au nom de notre Père céleste. Étant ce Créateur, étant Dieu avec Dieu, eh bien, Jésus, celui qui deviendrait Jésus, la parole, a obtenu une gloire et une vie dont la valeur est bien supérieure à la somme de toutes les vies humaines. à l'ensemble de toutes les vies humaines ayant jamais existé ou pouvant encore exister à ce jour, jusqu'à l'accomplissement final du grand dessein divin. Par conséquent, Dieu le Fils, seul, pouvait payer cette amende, sachant que seul Dieu le Père pouvait le ressusciter, afin, premièrement, qu'il revienne à la vie, bien sûr, et qu'il soit glorifié à nouveau auprès du Père, et puis, deuxièmement, afin que, eh bien, nous soyons sauvés par la vie de Jésus-Christ, que nous soyons sauvés de la mort éternelle. C'est ce qui, incidemment, devrait nous faire sérieusement réfléchir. Dieu ne s'est pas contenté d'effacer nos péchés. Il a fallu que l'amende dûment méritée de nos fautes soit payée par le seul qui pouvait le faire. Jésus, notre Sauveur, le Fils de Dieu, devenu notre frère aîné. C'est la plus grande histoire d'amour, la plus belle histoire d'amour qui ait jamais existé. Car en définitive, non seulement nous sommes réconciliés avec Dieu le Père et avec Dieu le Fils, mais en plus, nous avons accès, je le disais encore plusieurs fois, nous avons accès à la vie éternelle avec notre Père céleste et avec notre frère aîné céleste, qui reviendra ici, sur cette terre, pour régner auprès de l'humanité et pour le faire pour l'éternité. Dieu est maintenant disposé à nous accepter en sa présence. En effet, si nous reconnaissons, si nous acceptons ce que son Fils a fait pour nous, si nous reconnaissons nos péchés, si nous nous repentons sincèrement de nos péchés, et si nous sommes aussi disposés à pardonner aux autres, dans ce cas, il promet de nous pardonner aussi. De nous pardonner aussi, de nous accorder le don de son Saint-Esprit pour, à travers le baptême et l'immersion et l'imposition des mains. Et si c'est ce que nous faisons, il choisira alors de ne plus se souvenir de nos péchés. Ce pardon, nous ne pouvons pas l'obtenir par de bonnes œuvres, nous ne pouvons pas l'acheter, il a été payé. Il s'obtient par la foi et par la grâce divine. Nous devons croire ces choses, nous devons avoir confiance en Dieu. Paul a dit dans Romains chapitre 3, Romains 3, 24, que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire du rachat, par le moyen du rachat de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui nous rachète par sa mort et par sa résurrection. Il s'agit donc d'un don exceptionnel, d'un cadeau, d'une grâce exceptionnelle, un cadeau qui nous sauve la vie, qui est octroyé par Dieu, gracieusement, par notre Dieu d'amour. Il le fait par amour, et il n'a pas hésité à s'humilier, rendez-vous compte, en acceptant la mort de son Fils pour que nous soyons sauvés, nous qui ne sommes que peu de choses. C'est pourquoi nous aussi, nous devons apprendre à pardonner aux autres. Et c'est là la troisième leçon que je voudrais présenter devant vous aujourd'hui, que je voudrais aborder. Lors de sa dernière Pâque sur terre, Jésus a, rappelez-vous, instauré les nouveaux symboles de la Pâque. Et le premier d'entre eux, c'est le lavement des pieds. Nous lisons dans Jean chapitre 13, verset 3, « Jésus se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Pierre est époustouflé. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Il le savait. « Mais tu le comprendras bientôt. » Comment ? Par le biais du Saint-Esprit, qui lui sera donné quelques semaines plus tard. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et Jésus lui répondit, « Attends. » Il lui répondit, « Si je ne te lave les pieds, écoute bien Pierre, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Donc ce lavement des pieds était très important. Jésus nous fait comprendre que cette célébration de la Pâque, qui commence avec le lavement des pieds cette soirée-là, est quelque chose de très important auquel il tient absolument. Tout comme Dieu s'est humilié, en effet, afin de nous sauver, il nous apprend, nous aussi, à nous humilier ce soir-là, de façon personnelle, vis-à-vis de nos frères et sœurs, dans la foi, avec cette cérémonie unique du lavement des pieds. C'était un geste d'humilité accompagné d'une attitude de service. C'était le travail d'un serviteur. Et cette cérémonie évoque en nous cette humilité que Dieu veut voir dans notre cœur. Cette humilité que Dieu a lui-même consentie de sa propre volonté, de son propre désir de nous voir sauvés. Et à travers cela, oui, un véritable esprit de service qui caractérise en fait ce que nous sommes. Nous sommes censés être de véritables chrétiens, les vrais disciples de Jésus-Christ. Nous devons l'imiter, nous devons marcher comme il a marché. Nous sommes ceux qui font ce qu'il nous demande de faire. Nous lui obéissons. Il nous l'a dit, nous ne pouvons avoir aucune part avec lui si nous ne nous lavons pas réciproquement les pieds, et cela doit se faire au cours de cette cérémonie annuelle de la Pâque, qui nous rappelle tout le reste de l'année, le genre d'attitude, bien sûr, que nous devons avoir les uns envers les autres. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Donc là, il les met en quelque sorte un petit peu à l'épreuve. C'est important. Souvenez-vous de ce qui vient de se passer, car il faudra que vous fassiez la même chose. « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. » Donc il veut qu'ils comprennent ce qu'il fait. Il est maître et seigneur, il paye l'amende, il va payer l'amende des péchés de l'humanité. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc dans Jean chapitre 13, versets 12 à 15. Jean chapitre 13, versets 12 à 15. Donc de cette façon, nous suivons l'exemple de Christ. Nous suivons l'exemple de ses apôtres, bien entendu de ses disciples. Avant de prendre les symboles du pain et du vin, nous nous lavons mutuellement les pieds lors du soir, de la soirée de la Pâque. C'est le symbole de notre besoin d'être humble, de rester humble, de servir notre prochain, non pas seulement ce soir-là, bien entendu, et nous devons le faire. Mais à travers ce geste symbolique tous les ans, mais dans tout ce que nous faisons les uns envers les autres, nous nous souvenons de ces choses, eh bien, pendant le reste de l'année. Dieu l'a voulu ainsi, nous le pratiquons ainsi, dans le respect de ce commandement divin de la fête de la Pâque. Nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Et cela pour plusieurs raisons spirituelles, en particulier et surtout parce que, voyez-vous, le commandement nouveau de Christ nous demande de nous aimer les uns les autres. Il nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous entraider, de nous aider les uns les autres, de ne pas rester étrangers aux besoins des uns. Et pour ce faire, nous devons apprendre aussi, premièrement, à nous pardonner réciproquement. Nous avons besoin de cette humilité qui nous encourage à nous pardonner. Vous savez, les offenses, le manque de respect, les inimitiés, toutes sortes de choses charnelles et coupables qui nous divisent, elles peuvent surgir, et même entre chrétiens, nous le savons bien. Donc, cela, maintenant, n'a plus de place dans la vie du vrai chrétien. Pourquoi ? Eh bien, parce que, justement, nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés au prix de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Par voie de conséquence, l'un des moyens par lequel les disciples de Christ doivent s'entraîner, eh bien, c'est de s'aimer. Et tout d'abord, c'est tout d'abord commencer, on commence par le commencement, tout d'abord se pardonner avant de s'aimer mutuellement. Donc c'est un nouveau départ pour nous tous, hein, que nous répétons chaque année. On s'humilie, on se pardonne, on s'entraide ensuite, et on continue de s'aimer les uns les autres au fil du temps. C'est ainsi que Dieu a fait les choses envers nous, et afin que nous le pratiquions nous aussi, les uns envers les autres. Quand Jésus nous a enseigné à prier, dans Matthieu chapitre 6, verset 14, il a dit notamment ceci, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Donc nous obtenons le pardon de Dieu, à condition que nous pardonnions nous-mêmes. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc c'est automatique. Nous devons nous assurer que nous avons pardonné à tous nos frères, à toutes nos sœurs et à tous nos frères. Dieu nous pardonnera nos péchés, à condition que nous pardonnions aussi aux autres leurs offenses. Et l'exemple de Jésus nous revient en mémoire. Au moment de son exécution, peu avant de mourir, il prie le Père, il lui dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cet exemple, c'est peut-être l'un de ceux qui sont le plus difficile à suivre. Et pourtant, souvenez-vous du diacre Étienne. Étienne avait reçu la force d'imiter Jésus. Étienne, nous est-il dit dans Actes chapitre 7, verset 59, Actes 7, 59, Étienne, au moment de son exécution, priait, et il disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne a suivi parfaitement l'exemple de Jésus-Christ. Notre responsabilité, à présent, c'est de suivre l'exemple de Christ et par conséquent, d'être disposé à pardonner aux autres, même quand ils nous maltraitent. Cela ne veut pas dire que nous devrions, bien sûr, accepter tout ce qui se présente, approuver les abus dont nous souffrons de la part des autres. Cela veut dire que nous choisissons de ne pas leur en vouloir, ne pas en vouloir à ceux qui nous maltraitent, afin que nous ne nourrissions pas de ressentiment envers qui que ce soit. Et parfois c'est plus dur pour certaines personnes, mais nous devons persévérer. Nous pouvons y parvenir, sachant que, tout compte fait, eh bien, nous le savons, Dieu jugera chacun d'entre nous pour ses actions. Assurément, la Pâque est l'une des fêtes chrétiennes les plus personnelles, les plus solennelles, mais aussi, il faut bien le reconnaître, l'une des fêtes, c'est peut-être la plus joyeuse fête qui soit, à cause de cette profondeur spirituelle, de ce pardon mutuel, et de cette libération, de cette réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Nous nous pardonnons et nous sommes pardonnés. Pour conclure ce message, je voudrais résumer les trois leçons que nous avons vues ensemble, vu ou revu tout au long de ce message. Premièrement, l'avènement de la fête de Pâques nous rappelle la gravité du sacrifice de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que c'est à cause de nos transgressions, de nos péchés, et c'est à cause de nous, personnellement, que Jésus est mort au terme de terribles souffrances. Deuxièmement, nous réalisons qu'en observant la Pâque et en obéissant à Dieu dans tout ce qu'il nous demande, nous sommes réconciliés avec lui et avec son Fils. Et enfin, troisième leçon, nous devons nous pardonner les uns aux autres. Afin, justement, d'apprendre ou de réapprendre à nous aimer les uns les autres. C'est capital. Et en nous souvenant de ces trois leçons et en mettant en pratique notre préparation à la Pâque, nous obéissons à Dieu. Nous faisons ce qu'il nous demande. Nous faisons ce que Jésus nous demande de faire. Bien sûr, il y a, c'est évident, encore d'autres leçons que nous pourrions apprendre de la Pâque, et ce pourrait être l'objet de votre étude biblique personnelle avant que n'arrive cette première fête divine dans quelques jours. Dans l'intervalle, chers frères et sœurs, je vous souhaite une très belle fête de la Pâque et une excellente fête des pains sans levain, dans la joie d'être ensemble, réconciliés avec Dieu et dans la reconnaissance du grand sacrifice de notre frère aîné Jésus-Christ le Sauveur de l'humanité.